Soyez les bienvenus à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts se réveilleront, impérissables, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mais où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?
Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour ce culte un peu particulier, puisqu'il s'agit de faire mémoire des personnes disparues au cours de cette année, des personnes chères à notre cœur, d'entourer les familles du mieux que nous pouvons avec humilité. Et ce souvenir, cette mémoire, nous le faisons de différentes manières, par la parole, par la pensée, par la prière, par la louange, par le chant, mais aussi par des gestes symboliques. Et le texte que je viens de lire nous offre une possibilité d'aborder cette mémoire, non pas seulement sous l'angle du regret et de la tristesse, mais à la lumière d'un message d'espérance adressé aux vivants. Il permet le souvenir, mais un souvenir qui plutôt que de s'apesantir se mue en promesse. Alors que les pharisiens attendent de lui qu'il leur donne un signe, un indice sur la venue du règne de Dieu, Jésus les prend à contre-pied. Et il leur répond cette phrase qui est au centre de la foi chrétienne, même si elle a souvent été minorée, voire ignorée, « Le règne de Dieu est au milieu de vous ». Si au cours de l'histoire, on a eu tendance à passer un peu rapidement sur cette déclaration de Jésus, c'est certainement que l'inconnu de la mort et l'angoisse que cet inconnu suscite ont pris le pas sur le reste. À tel point que les religions de notre monde, dans leur grande majorité, ont été une manière de construire un discours et des gestes dans le but d'apprivoiser cette peur originelle. Un discours d'abord avec l'idée séduisante que quelque chose de mieux va survenir un jour, ou nous attend dans l'au-delà. Et puis des gestes, comme par exemple le fait d'allumer ses bougies, pour accompagner ce discours. Des cérémonies. De tout temps, la mort et le vide inquiétant qui lui succède ont à ce point désarmé les hommes qu'ils ont pour lui faire face élaborer des rituels, des traditions, des actes, des choses à faire, absolument, afin de rassembler la communauté et donc de rassurer, de consoler. Et ces gestes sont importants. On peut les moquer, on peut les dénigrer, mais ils peuvent faire sens. Dans une certaine mesure. Beaucoup de nos contemporains les considèrent comme obsolètes, et je m'inclus dans ces contemporains, en tant que réformé, très fier de ne souscrire à aucune gestuelle qui pourrait devenir une superstition, jusqu'au jour où, confrontés eux-mêmes, nous-mêmes, à la mort et au deuil, ils y trouvent un réconfort inattendu. Peut-être même plus encore dans notre société où la mort est cachée et presque taboue. Mais ces discours, cette théologie, ces actes ne sont à vrai dire que peu d'utilité s'ils sont désincarnés, s'ils sont vidés de leur substance. Il s'agit donc de rappeler que pour nous, chrétiens, ils sont une conséquence de la foi qui nous habite. Leur valeur intrinsèque, bien que réelle, est bien maigre sans l'espérance qui est la nôtre. Une espérance que l'on pourrait formuler de bien des manières et qui est certainement propre à chacune et à chacun d'entre nous, mais qui s'exprimera sans doute de la manière la plus hardie dans la verve provocatrice de l'apôtre Paul, qui, s'adressant aux Corinthiens, s'écrit sur de lui « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Oser un tel affront face à la mort pourrait relever de l'inconscience, et il faut pouvoir placer cet affront dans le contexte de sa foi pour comprendre que l'apôtre n'est pas bravache, que ce n'est pas un illuminé, que cette phrase de défi n'est pas une bravade mais bien un constat. C'est qu'il a compris. Lui, le juif converti, à quoi s'en tenir? Le message du Christ lui est apparu comme une évidence sur le chemin de Damas. La foi chrétienne, chers frères et sœurs en Christ, n'est pas une foi qui se contente d'annoncer l'espérance en un futur ou un au-delà hypothétique qui serait meilleur que la vie. Elle a souvent été présentée comme ça, comme l'espoir un peu désespéré en un avenir meilleur. Un espoir un peu désespéré de quelque chose qui ne pourrait advenir qu'après la mort, tant la vie ici-bas est misérable. Croire cela a certainement contribué à rassurer des générations entières, peut-être encore aujourd'hui. Cela a permis à beaucoup, vous en connaissez peut-être personnellement, de survivre dans des situations de détresse telles que c'était la seule manière de se raccrocher à la vie. Certains ont vu dans cette promesse un encouragement à bien se comporter et faire ce qu'il fallait pour accéder à cet au-delà. Mais il semble, malgré l'aspect positif que pourrait avoir cette forme d'espérance, qu'il se soit trompé. Ce n'est pas le sens de l'Évangile, ce n'est pas le sens de cette bonne nouvelle dont on parle dimanche après dimanche. Qu'est-ce que serait cette bonne nouvelle ? Qui, pour faire court, reviendrait à dire « Bon, ok, votre vie, on est d'accord, elle est quand même pourrie. Mais ne vous inquiétez pas, une fois mort, ça ira mieux. » Que l'on pense à la mort de tout homme ou à celle de Jésus, rien ne peut être fait. Il n'y a rien à faire face à la mort. Et c'est sans doute pour ça que nous faisons tant. Pour oublier, mais aussi pour aider les autres à oublier qu'il n'y a rien à faire. Pour rendre acceptable l'inacceptable. Comme les femmes qui vont au tombeau pour s'affairer. Elles vont en fait se changer les idées, elles ont un programme qui les attend. Bien défini, bien structuré. On veut essayer d'apprivoiser ce qu'il y a de plus arbitraire en le rendant familier, alors on traite la mort comme une invitée surprise, certes, dont on s'accommode tant bien que mal. Comme victime du syndrome de Stockholm, on essaye de s'adapter à elle. C'est le but des rituels. L'homme, dans sa faiblesse, a besoin de rituels, semble-t-il. Mais il y a autre chose, difficile à nommer, difficile à exprimer, difficile à cerner, et donc d'autant plus difficile à transmettre. Pourtant, et contre toute attente, cette autre chose, si difficile à cerner, cette invisible, se transmet. Il se transmet tant bien que mal depuis plus de 2000 ans, malgré le temps qui passe, malgré le mal, malgré la souffrance, malgré la mort d'autant plus cachée qu'elle est omniprésente, cette étincelle, à l'image de ces lumières un peu vacillantes, continue de briller. Cette autre chose est fragile. Et c'était loin d'être gagné, à vrai dire. Il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a un écart constant entre ce que Jésus a révélé de lui-même et ce que les disciples en ont attendu. Pour un Messie attendu depuis des siècles, il faut dire qu'il n'a pas été très convaincant. On l'attendait roi des rois, il s'est proclamé serviteur. On l'attendait fort et il a accepté l'humiliation. On l'attendait vainqueur de ce monde, il s'est manifesté comme celui qui accepte de perdre sa vie. Et lorsque finalement les disciples n'en attendront plus grand-chose, alors il se révélera vivant. Et une fois révélé vivant, on aurait pu attendre enfin une manifestation glorieuse aux yeux du monde qui l'a crucifié, qu'il réponde aux attentes des pharisiens de notre texte en faisant advenir le règne de Dieu qui cloue enfin le bec de toutes celles et tous ceux qui ont tant besoin de sentir que leur espérance se base sur quelque chose de tangible. Mais non, le voilà qui précède ses disciples en Galilée pour un chemin à recommencer avec eux, mais aussi avec nous. Proclamer, comme le fait Jésus, que le règne de Dieu est parmi nous, c'est annoncer que Dieu s'est approché et qu'il est là. C'est affirmer qu'il est possible de nous laisser pénétrer par cette parole qui proclame, toujours avec humilité, qu'il est possible de se relever, quelle que soit la dureté de la chute. Que le tombeau de nos morts ne peut rester scellé devant ce Dieu qui suscite en nous le mouvement de la marche et la force du témoignage, envers et contre tout. À travers le règne de Dieu, c'est en filigrane la résurrection qui nous est annoncée. Une résurrection qui préfigure notre propre résurrection. Non pas dans un avenir plus ou moins proche, ni selon tel ou tel critère auquel il faudrait souscrire absolument, mais aujourd'hui et sans condition. Dieu, c'est ma conviction, nous ressuscite patiemment, sans relâche, dans l'aujourd'hui de nos vies. Et la résurrection est cet événement qui fait se dresser des hommes là où d'autres tombent et succombent. Elle est un hommage divin rendu à la vie des humains. Elle est l'acte de foi de Dieu qui croit en l'homme, en chacun de nous, qu'il soit un habitué des églises ou de passage, qu'il soit à l'aube ou au soir de sa vie, que sa foi soit ferme ou chancelante. Christ est ressuscité et son règne est parmi vous, toujours. Il renouvelle en vous cette espérance. Par la force du Saint-Esprit, il vous relève en vous-même. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole, en silence, qui parle de Dieu, du monde et de vous.